Bonsoir, bonsoir. Ce soir, sur Canal Sud 92.2, c'est Brasero Rire. Mais, quand il s'agit d'être... Quand il s'agit d'être drôle, d'être compris, c'est plus compliqué. La légitimité, la confiance en soi, la pression, tout ça... Donc... Merci. Ouais. Est-ce qu'on peut arrêter avec les rires, s'il vous plaît, on n'est pas là. Merci. Donc ce soir, une émission sur l'humour, ses fonctionnements, ses différences, avec des sketchs, de la musique, une interview exclusive d'un groupe de variété française à la renommée... D'un groupe de variété française à la renommée internationale. Et tout ça, c'est cadeau. Sans garantie de vous faire rire, mais pour sûr, avec l'envie de vous faire passer un bon moment.
Brasero Rire, une heure de déconnade.
De l'humour, des blagues, c'est parti.
On va bien se marrer.
Bonsoir.
Nous revoilà, c'est nous, Fraise
et Ali. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette activité tellement pratiquée mais tellement méconnue dans ses tenants et ses aboutissants. Le rire.
Mais alors, Radi, qu'est-ce que le rire?
Allez, on y va. On saute les deux pieds dans l'eau et le cul par terre dans l'univers du rire.
Le rire est un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées. Accompagné d'une vocalisation inarticulée, plus ou moins bruyante. Ces mouvements concernent en premier lieu la musculature respiratoire et le larynx et sont accompagnés d'une mimique provoquée par la contraction de muscles faciaux.
Regarde, je contracte les muscles faciaux.
Oui, entraînant notamment l'ouverture de la bouche. Ouvre. D'autres mouvements plus ou moins contrôlés peuvent accompagner le rire. Paradoxalement, le rire est étroitement lié à son contraire émotionnel, les pleurs, avec qui il peut parfois se retrouver mélangé.
Ça veut dire quoi, ça?
Ben, que des fois, tu peux pleurer de rire.
Oui, mais attends, c'est pas... Tu peux pleurer et rire?
Oui.
Mais tu peux aussi rire et pleurer.
Eh oui.
C'est quand même pas la même chose. Si tu pleures et puis après tu ris, c'est pas la même chose que quand tu ris et après tu pleures.
Ben là, tu vois, moi j'ai envie de pleurer.
Et tu rigoles.
C'est vrai. Bref, le rire peut avoir différentes sources. Le comique et l'humour.
Carpalmal.
Oui. Le chatouillement. Le stress et la fatigue.
Et Pierre Palmade.
La consommation d'alcool, de drogue et autres stupéfiants.
Ne faites pas ça à la maison, les enfants!
Aujourd'hui, on commence à comprendre ce qui confère au rire cette dimension de partage irrésistible. Il s'agit probablement de phénomènes d'empathie assez fondamentaux, faisant intervenir les systèmes miroirs du cerveau, probablement les neurones miroirs.
Hein?
Les neurones miroirs.
C'est hyper... Ça veut dire quoi? Je comprends rien.
Mais écoute, Radi, le psychologue Leonard Schilbalt de l'université de Cologne en Allemagne a ainsi montré qu'une personne qui commence à rire suscite auprès de ceux qui l'observent une activité des neurones impliqués dans la contraction des muscles zygomatiques. Même quand l'observateur ne rit pas lui-même... Il se produirait ainsi une préactivation de l'activité neurologique liée au rire par simple observation.
Attends. Il y a des neurones, des miroirs, les gens, ils regardent et des gens, ils font. C'est un peu comme une boîte de nuit, en fait. Les gens, ils dansent devant les miroirs, les autres, ils les regardent et ils rigolent.
Peut-être un petit peu.
On a une boîte de nuit dans la tête, quoi.
Voilà, c'est une belle image, ça, Radhi. Bref, l'être humain serait en quelque sorte pré-câblé pour le rire, et plus particulièrement en situation sociale ou communautaire.
Ouais, il y en a quelques-uns quand même, ils ont des câbles pas tout à fait bien câblés.
Non, mais c'est pas grave. Des bandes sonores préenregistrées, dites pistes de rire ou rire en conserve, sont couramment utilisées dans certains spectacles d'humour ou comédies filmées justement pour signaler un élément supposé comique.
Les rires. François, les rires. Putain, il nous a niqué les faits, quoi. Bon, on continue.
Le rire est généralement anodin et n'a souvent que peu de conséquences sur la santé, malheureusement. Bien qu'il permettrait, selon son intensité, d'augmenter fortement le taux de sérotonine et de dopamine, de telle sorte qu'il aurait un effet antidépresseur immédiat. Il renforcerait les muscles de la sangle abdominale dues aux contractions musculaires rythmées et souvent intenses.
Ah, c'est un peu comme du pilate, quoi.
Oui, exactement. Mais comme le pilate, certains rires peuvent dans de très rares cas être mortels.
Non, il y a des gens, ils sont morts du pilate.
Oui, des cas de mort
du
causés
pilate
par l'hilarité, oui, ont en effet été relatés pendant l'Antiquité.
Ah, Ponce Pilate.
L'expression « mourir de rire » n'est donc pas totalement dénuée de fondement. Et si vous le demandiez Oui.
Demandez-le.
Et si vous le demandiez
Mais on se le demande.
Voilà, rire ne s'apprend pas, contrairement aux langues. Cette capacité est innée chez l'espèce humaine. L'humain rit 12 fois moins lorsqu'il est seul, alors qu'en présence d'autres personnes... je me suis trompée dans ma phrase. L'humain rit 12 fois moins souvent lorsqu'il est seul qu'en présence d'autres personnes. Un sujet qui entend un rire à la suite d'une blague et qui se met à rire attribuera à la blague le fait qu'il ait ri.
Donc, j'entends Pierre Palmade, les gens rigolent, je rigole et je crois que c'est Pierre Palmade qui m'a fait rire.
Exactement.
Oh là là.
Tu comprends pourquoi tu t'es trompé.
Il nous a bien eu, sacré Pierrot.
Contrairement à une idée reçue, le rire n'exprime pas la joie, mais le rire rend joyeux. Pour ceux qui entendent le rire, celui-ci indique l'absence de danger. Il permet de faire savoir quand et où il n'y a plus de danger pour le groupe, pour pouvoir s'amuser et se relaxer.
Après, c'est pas hyper pratique comme code de rigoler pour dire aux autres qu'il n'y a pas de danger. En général, dans les films, ils sifflent. Comme ça, quand il n'y a pas de danger.
Oui, c'est vrai. Et des fois, je rigole alors que je suis en danger moi-même. Quelqu'un qui rit sans raison ou à contresens, c'est-à-dire en présence d'un danger réel, sera vu comme un fou.
Un fou rire, comme en classe.
C'est... Alors, je vais essayer de faire une blague radiophonique. Tu fais le crépitement des œufs, ok? Si tu veux. Ok, alors attends, c'est parti. T'as deux œufs, ils sont dans une poêle à frire. Il y en a un, il fait... Il fait chaud, tu trouves pas? Et l'autre, il fait... Il fait... Un œuf qui parle! Moi, j'adore cette blague.
Ok, c'est dans la boîte. Dans la boîte à œufs.
T'avais une blague, toi?
Oh là là.
Vous savez ce que c'est une tomate avec une cape?
Non.
Bah, c'est Super Tomate.
Ah ouais.
Et vous savez ce que c'est un concombre avec une cape?
Non. Bah, c'est Super Concombre.
Bah non. C'est un concombre déguisé en Super Tomate. L'humour absurde est une forme d'humour qui détourne délibérément les raisons causales, aboutissant à des conclusions ou des comportements illogiques, dans le but de provoquer le rire. L'humour absurde est proche du non-sens, de l'illogisme. Bon, ça a l'air un peu obscur, dit comme ça. Mais avec quelques exemples, on y verra plus clair. En gros, il s'agit de raconter une histoire sans queue ni tête, quoi.
Hé, tu connais la blague du petit-déj?
Non.
Pas de bol.
Alors, c'est un squelette qui rentre dans un bar et il dit « Bonjour, je voudrais un coca et une serpillière, s'il vous plaît. »
Ouais, enfin ça marche, comme dans la définition, uniquement si ça marche du premier coup, du coup. Non, parce que si ça marche pas du premier coup, c'est là que l'humour absurde perd toute sa crédibilité. Non, mais j'ai pas trop compris la blague, en fait.
Eh ben, c'est un squelette, donc il demande un coca, et comme c'est un squelette, tu sais, il demande une serpillière. Parce qu'en fait, il boit le coca et pff, ça tombe tout par terre, quoi.
Ah ouais. Ha.
Et alors, il y en a qui sont pas mal doués pour l'humour absurde, pas toujours volontairement, mais quand même, ça nous fait souvent rigoler.
La fête des bonbons. C'est une histoire de miettes, je me présente. Ring, ring. Les enfants, c'est l'heure des bonbons, déguisez-vous. Oui, les bonbons. La bagarre des bonbons. Non, c'est moi qui ai ce bonbon-là. Non, c'est moi. Non, je voulais, moi. Laisser un peu de bonbons aux autres. Quand même. D'accord. Mais comment on va faire pour avoir tous les bonbons? La plein de bonbons.
Hold tight, hold tight. Hold tight, hold tight, buriyaki sake, want some seafood. Mama, shaving rice, that very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, buriyaki sake, want some seafood. Mama, shaving rice, that very nice.
Moi, je choisis ce déguisement de sorcière, chauve-souris, et moi sorcier. Et moi alors, moi je vais choisir en vache volante. Oui, très bien, c'est Halloween. Vache volante? C'est pas Halloween, ça, vache volante. Non, putois. Putois, ça sent mauvais pour Halloween. Voilà l'histoire.
Quand le cellophane bloque les micros, à la technique, on ne sait plus comment faire.
Ok, Marie, ça enregistre. Du cellophane.
Du cellophane.
Vas-y, c'est bon, tu peux y aller.
Américo, t'as pas une blague à nous raconter?
Alors, c'est l'histoire d'un Belge, d'un Français et d'un États-Unien qui rentrent dans un bar. Et là, le barman dit « Encore vous ?»
C'est fini?
Ouais.
C'est la chute.
Bras zéro rire, des fois ça fait flop.
Ah mais c'est un peu toujours les mêmes qui font flop. Moi j'aimerais bien un moment, moi j'aimerais bien avoir un jingle.
Non, moi elle était bien, elle était très bien. Moi j'ai
c'est toujours moi qui fais les jingles.
J'ai ri à ta blague, mais j'ai ri sous cap.
T'as ri sous cap, ouais. Ouais, ok. C'est un peu épais, sous cap et épais.
Allez bien.
Thank you. Est-ce qu'en ce moment, vous arrivez à trouver des occasions de rigoler?
Franchement, je... rigoler, c'est pas souvent le cas, hein, avec... avec ce qui se passe là. Je pense pas que les gens sont... Je crois que les gens sont plus malheureux que heureux.
Oui, oui, on rigole.
Oh, mais nous, on
écoute... On écoute, on écoute Laurent Gérard, ça nous fait rigoler.
Mais c'est quoi qui vous fait rire en ce moment?
Bah, le fait d'être entouré de personnes qu'on aime, de pouvoir avoir la possibilité d'être avec les gens qu'on aime surtout, et puis communiquer, c'est très important. Il faut garder le sourire malgré tout. Si on reste dans défaitiste, on ne s'en sort pas. Donc ouais, c'est important de rire.
Oui, on peut rire, mais bon, c'est avec la liberté. Là, on dirait qu'on est plus... On dirait qu'il n'y a plus de liberté. C'est à 18 ans, on vous dit de rentrer chez vous. Ah, ça y est, hein. Vous levez le matin, il est 8h du matin, allez hop, c'est parti, la journée à 18h, ça y est, elle se termine vite.
Voilà la preuve, vous faites rire en posant la question.
Voilà. Si, on arrive parce que bon, heureusement, il y a le travail qui continue, donc au travail, on essaye de voir avec les collègues et de rire quand même, oui, on rigole.
Il n'y a que quand on a eu le Covid que c'était très dur parce qu'on a été isolés
3 semaines.
Donc ça, c'était très dur parce qu'on est que tous les deux dans la région. Donc c'était un peu difficile et on n'avait pas trop le moral, quoi. Il n'y a que la télé à regarder, donc ils ne parlent que du vaccin, que des vaccins qui ne sont pas là, du Covid. C'est horrible, c'est horrible. Hein,
ouais, c'est horrible.
On a morflé là, ouais. On n'était pas bien.
Et c'est morose, comme on dit. C'est morose, on ne peut rien faire, on n'est pas libre, on ne vit pas. Et puis écoutez, c'est comme ça, on déprime. Je vois ma fille depuis, ça fait presque un an qu'elle ne va pas à la fac. Elle est à la maison enfermée, bon, elle a des cours par correspondance, mais elle déprime, hein. Elle déprime parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça.
Non, mais ouais, après, j'avoue que c'est peut-être pas facile pour les gens d'être détendus ou quoi en ce moment, parce que bon, nous, on a la chance d'être en coloc ou quoi. Mais bon, pour des personnes qui vivent la situation de plus personnellement, qui sont séparées, bon, je conçois que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et du coup, bon, pour moi, justement, la répression policière pour les mesures qui sont prises à outrance, je pense que ça n'aide pas, quoi. Genre, la personne qui a envie de sortir, par exemple, qui a envie de sortir, je sais pas, à 21h, parce que ça nous arrive de se réveiller, ou voilà, t'as un mood où tu t'es embrouillé avec ta copine, t'as envie de prendre l'air, voilà, tu veux sortir, marcher. Et cette personne-là, on l'oblige à rester chez lui, tu vois. À partir de 18h. Du coup, ça, je conçois que ça peut saper le moral. Un truc comme ça, ça peut saper le moral. Genre, il y en a qui... Je pense que la population, elle se rend pas compte, mais juste le fait de marcher la nuit et de regarder les étoiles, ça détend. Et ça, c'est un truc qu'on est privé depuis un moment. Bon, après...
On peut pas nous empêcher de sortir, c'est pas possible. Hein. C'est vrai. Moi, je trouve pas ça bien, d'empêcher les gens de sortir. On est des êtres humains, on a besoin de bouger, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de respirer la nature, on a besoin de tout ça. Sans ça, on ne vit pas. Hein.
Rire à contre-cœur.
Rire à la dérobée.
Rire à gorge déployée.
Rire dans sa barbe.
Rire sous cap.
Rire en cachette.
Rire à s'en faire péter les côtes.
Rire en coin.
Rire à s'en décrocher les mâchoires.
Rire tout bas.
Rire à pleines dents.
Rire à pleine gorge.
Rire au nez et à la barbe de quelqu'un.
Rire à s'en faire péter les côtes et vomir le duodénum.
Rire aux larmes.
Rire à ventre déboutonné.
Rire aux éclats.
Rire bêtement. Rire stupidement.
Rire comme une baleine.
Rire comme un cœur.
Rire du bout des lèvres.
Rire nerveusement.
Rire pour un oui ou pour un non.
Auto-dérision. La dérision est le fait de tourner en ridicule quelque chose. L'autodérision serait donc de se tourner soi-même en ridicule, rire de soi-même, se moquer de soi-même. Ou encore, ne pas se prendre au sérieux, prendre de la distance avec soi. Wikipédia annonce. Elle peut être utilisée comme une forme d'humour ou pour diminuer des tensions interpersonnelles. Anna Gatsby, une humoriste australienne, se définissant comme grosse, gouine et moche, dans son spectacle Nanette, après 15 minutes de blagues et de pirouettes, va tout renverser. L'art de la blague lui-même, mais aussi sa carrière, le patriarcat, la dynamique de l'humour dans son ensemble, et j'en passe. Elle nous dit « J'ai construit ma carrière sur l'autodérision et l'humour autodépréciatif, et je n'ai plus envie de ça. Est-ce que vous comprenez ce que signifie l'autodérision quand elle est produite par quelqu'un qui appartient déjà aux marges de la société ? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. Je me rabaisse pour avoir le droit de parler, pour obtenir le droit de parler. Je refuse de me plier à cela désormais. Voilà ce que Anna Gatsby nous apprend de l'autodérision. Moi, j'ai choisi d'interviewer des personnes qui en ont une autre version, tout aussi intéressante à écouter. Bonne écoute.
Tu t'es trouvé une mission, faire la leçon sur la procréation. En plein lynchage homophobe, tu te dis tant pis, tu parles de ce qui fâche à tout prix. T'es pas lâche, t'as un avis, pas d'interdit, c'est ton côté Charlie.
Intéressant de voir à quel moment les populations minoritaires deviennent ton objet de lutte prioritaire.
Connard premier à parler, le débat est canassé. T'as honte de rien, visiblement, t'en fais même un livre payant. La connerie passe le mur du son. On est de mauvaise foi par conviction. Putain d'époque crade, on a brûlé notre barricade. On fait pas dans le rap conscient,
nous.
On fait dans le bête et méchant, bouh.
Ça y est, c'est lancé. C'est lancé le rap.
Ouais, mais le mets pas forcément trop près, parce d'accord. Que sinon ça va être trop fort.
Alors, salut vous deux, bienvenue à cette interview à distance.
Merci.
Alors voilà, ma première question concerne votre présentation en tant que van. En vrai, vous êtes qui ? Vous datez de quand ? Et vous faites quoi ?
On date de quand ? On est très datés, ça c'est
on
sûr.
On est extrêmement datés. Je suis pas...
Bah, nous, ça s'appelait pas forcément Van, mais on a commencé, je sais pas, dans les années 2000.
2006-2007.
Ouais. C'est quoi ? C'est un groupe de musique de feignasse, parce qu'on sort quand même un morceau tous les 3 ans. Voilà, qu'est-ce que... Oui, si, on s'est défini un jour comme on faisait du rire et chansons. On est plus doué en live à pouvoir faire interagir sur nos chansons que quand c'est enregistré, quoi.
Et vous êtes qui ?
Nous, on est deux personnes qui s'identifient plutôt comme Gwyn, Butch. Ouais. Mais c'est aussi des mots très datés. Enfin, moi, en tout cas, c'est des trucs qui m'ont parlé. Queer, TPG, quoi, un peu de veine-là. Que quoi ? Aussi pour dire, je pense, nous, on a commencé à faire de la musique dans un contexte toulousain qui était un peu très punk et DIY. Je pense que la personne qui nous a donné envie de faire de la musique, c'était un Fidel Castra, qui est un PD... Fiotte qui faisait un show tout seul avec sa musique qui sortait de l'ordinateur et ça donnait vraiment un espèce de truc de... C'était possible, quoi. C'était possible de dire des trucs facilement en bricolant 3 trucs sur un ordinateur. Voilà. Pour parler plus sérieusement que Laura.
Oui.
Et du coup, moi, c'est Flo.
Voilà. Moi, c'est Laura. Et oui, sur le truc des punks, je pense que ça nous a parlé parce qu'il y avait le côté quand même un peu débile. On s'en fout de tout, mais bon, pas complètement de tout, parce qu'on a quand même une petite éthique politique. Hein, mais
en tout cas, ce côté un peu... En tout cas, on va faire chier. Un peu un truc de base de faire chier, puis d'être marrant aussi. Enfin, de pas se prendre au sérieux, en tout cas.
Mais faire chier les gens qui nous saoulent, pas...
Oui, faire chier les gens qui nous saoulent, bien sûr. Oh là là.
Oui, voilà.
Ok, et du coup... Elles parlent de quoi, vos chansons, et elles sont pour qui ?
Alors, c'est quand même assez bizarre de répondre à ça, parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas joué ou qu'on n'a pas fait des nouveaux morceaux, ça va faire presque 2 ans. Alors, j'ai l'impression qu'on parle, tu sais que ça fait un peu interview des vieilles canailles, tu vois, de George Johnny Hallyday, Dutronc et tout ça, qui font « Oui, bah, on a repris nos standards.
» C'était quand, ça ? C'était en 2003, j'ai l'impression. Et non, c'était sous Sarkozy.
C'était sous Sarkozy. Mais on a commencé à jouer sous Sarkozy.
Non, on a commencé, c'était Pompidou. Il me semble. Hein.
Mais non, qu'est-ce que... Ben en fait, ça, elle parle de quoi? Je pense que ça dépend des moments, parce que je pense au début, on avait beaucoup de textes, ben justement, je pense vraiment d'autodérision aussi sur un milieu dans lequel on était proactive. Et ça qui était... on faisait des festivals TPG, queer, féministe à Toulouse. Et on organisait des projections et on faisait des manifs et des trucs comme ça que je pense ces dernières années c'est sûr que c'est sûr que c'est pas nous qui avons participé à l'organisation de grand chose mais
ça on n'a pas fait grand chose
du coup non. Je pense que les textes enfin les chansons et les textes ils sont quand même vraiment différents en fonction de quand ils ont été faits quoi.
Donc on pouvait se permettre d'avoir de l'autodérision sur ce milieu quand on était vraiment dedans. Là, je pense qu'aujourd'hui, on ferait plus pareil. On ferait de l'autodérision de où est-ce qu'on en est maintenant et qu'on n'est plus vraiment
central dans un milieu.
Central dans ce milieu. Ouais. On ferait sûrement des chansons sur la campagne, étant donné qu'on est parti à la campagne, comme tous les gens de plus de 35 ans.
Ok, et vous identifiez un public particulier pour vos chansons ou pas?
Non, mais bah nous quand même, à l'époque, on a commencé à jouer à Toulouse. Je veux dire. C'était un moment où les squats, ils étaient quand même très hétéros. Enfin, nous, on a vachement évolué dans un milieu qui était hétéro-punk, toto, quoi. Et ça commençait un peu à faire de la place là-dedans. Enfin, il commençait à se passer des trucs, on n'était pas les premiers. Il y avait eu des... Je veux dire, il y avait eu des squats de Gwyn non mix, il y avait des squats de PD, il y avait eu... Je sais pas, il y avait toute une bande de gens, mais je veux dire, les lieux dans lesquels on évoluait, ils étaient très mixtes et à grosse majorité hétéro. Enfin, le féminisme n'était pas vraiment en vogue et aimer les TPG, c'était pas à la mode trop. Là, maintenant, c'est cool, tout le monde est super déconstruit, mais il y a quand même eu une période où c'était un peu la bataille pour organiser des soirées ou des festivals.
Oui, du coup, le but, c'était un peu de bousculer ce public hétéro. En tout cas, de se foutre de leur gueule, en faisant plaisir aux trois TPG qui se battaient pour être devant le pogo. Et leur faire de la place.
Et en même temps, pas se faire taper. Et réussir à rester quand même un peu pote et allié avec des gens pour continuer à exister et à faire des trucs sur la scène toulousaine, par exemple.
Mais après, plus tard, on a fait des concerts plus en non-mixité, ou mixité choisie TPG, queer, etc. Et qu'on s'est rendu compte, c'est vrai que c'est pas... t'as pas forcément envie de dire les mêmes trucs. C'est pas sur les mêmes trucs que ça joue.
Quand on écoute vos chansons, j'ai l'impression qu'on constate vite qu'elles s'appuient sur beaucoup d'humour. Hein. Notamment la fameuse autodérision vis-à-vis de vous-même et de votre communauté. Et plutôt la moquerie, le sarcasme et l'ironie vis-à-vis des oppresseurs ou des dominants. Quoi. Du coup, ma question, c'est pourquoi vous avez choisi d'aborder ces thèmes au travers de l'humour?
Moi, je pense... Moi, quand je suis arrivée à Toulouse, j'avais 18-19 ans, j'allais à la fac, et je savais très bien que j'avais envie de rencontrer une asso homo, queer, j'en sais rien. En tout cas, je savais très bien que j'étais pas... hétéro et qu'il fallait que je fasse autre chose. Et la première asso dans laquelle je suis allée, c'était une asso très mainstream. Et en plus, c'était pas une blague, c'était à la fac du Mirail. Et à l'époque, l'asso, le local qu'elle avait, franchement, on aurait dit un placard. Et c'était trop chelou d'arriver dans cet endroit, d'ouvrir la porte d'un placard et de voir... franchement, les gens étaient pas bien, quoi. Les gens, ils avaient l'air honteux d'être eux-mêmes. Enfin bon, j'avais l'impression d'être encore plus déprimée en sortant de ce placard que du mien. Enfin bref. Et du coup, c'était enfin, ça, vraiment, il y avait un truc qui me convenait pas là-dedans. Moi, j'avais quand même vraiment envie d'être... Enfin, je sais pas, d'avoir un truc de rire, d'avoir un truc powerful et tout ça. Et que, je sais pas, ce truc de sombrer dans cette espèce de... Je me suis perdue dans ce que je voulais dire.
Non, mais moi, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on ressentait des trucs d'oppression, des trucs chiants, mais que notre façon d'en parler, c'était plus simple. Enfin, ça donnait plus de force pour moi d'en parler en utilisant l'humour, parce que aussi, quelque part, ça met de la distance avec que ça peut faire. Ça peut blesser. Enfin, tu vois, où tu peux ne pas être bien parce que tu galères sur des trucs. Mais moi, ça me semble que ça donnait plus de force de le donner sur le truc de l'humour, parce que ça fait genre, ben en fait, t'en as rien à foutre. Bon, alors ça me touche pas du tout, et vous êtes, en plus, vous avez, enfin, tu vois, les oppresseurs, c'est vraiment, vous êtes des gros nazes, quoi. Regardez juste, vous nous faites rire, quoi. Et
ouais, et puis il y avait quand même toute une, enfin je veux dire, il y avait les fanzines, il y avait un fanzine PD, moi, qui a quand même vraiment changé ma vie, qui croisait des trucs de punk et de problématiques de minorités sexuelles. Bang Bang, je veux dire, c'est des PD qui jouaient vraiment sur des trucs de foutage de gueule constant des hétéros, et ça, moi, c'est un truc, ça m'a sauvé la vie. Moi, je pense que l'hétérophobie, ça a sauvé ma vie. mais c'est vrai, de toute façon, je veux dire, ça a vraiment sauvé ma vie de me dire, mais c'est vous en fait qui êtes ridicule, c'est vous qui êtes. Et ce basculement-là, moi je trouve que. Après, il a opéré dans plein d'endroits de ma vie, mais même sur d'autres luttes et tout ça, et que je trouve qu'il est. En tout cas, à un moment donné, il a été nécessaire et il a été salvateur, quoi, parce que franchement, je pense aussi on a un humour de désespérer, nous, hein. enfin je sais pas comment dire, on a beaucoup d'autodérision, mais à la fois on est, l'humour qu'on a, c'est vraiment un humour de dépressif, quoi, ou de personnes très angoissées. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, j'ai juste envie de bien rigoler et de faire chier.
Alors moi, j'ai quand même un peu d'espoir, si je peux.
Ah oui. Alors elle a de l'espoir.
Bah, je trouve que juste que si, au moins si tu te marres bien avec les gens autour de toi, ouais, c'est déjà quand même un petit espoir. Bah, justement, quoi.
Oui, oui.
Si qu'on peut se préserver des espaces où au moins on rigole bien, même si c'est, il y a plein de trucs chiants.
Mmh.
C'est déjà une petite victoire.
Mais c'était justement ma question suivante, qui était, est-ce que rire de ces traumas revient à les exorciser ou à les camoufler?
Pour moi, à les exorciser quand
même. Ouais,
hein.
pour moi aussi. Ah bah moi, oui, franchement, le moment où je me suis sentie bien dans ma vie, c'est le moment où on a commencé à rire des dominants, et puis à se sentir plus légitime à exister, parce que, enfin, je veux dire, c'est je sais pas, j'imagine.
Et à rire de nos travers aussi.
Oui, et à rire de nos travers, mais avant tout à rire des.
Oui.
Franchement, à rire des dominants, moi, ça a sauvé la vie, quand même.
C'est quoi le truc? Tu peux plus procréer? T'as perdu ta virilité? T'as fait un mauvais score? Spermogramme. Tu t'es fait bouffer tes graines comme dans Pac-Man. Réflexe normal, tu t'en prends au PD. T'as réalisé que tes couilles sont atrophiées à cause des hormones qui coulent du robinet. Que la qualité de ton sperme a baissé alors que tu t'es fait chier toutes ces années à pratiquer le retrait.
Achète-toi de la Volvic et va te promener. Mes copines en quelques clics, elles crament ta paternité.
Bien sûr, c'est la fin de ton humanité. Sans déconner, vous nous avez saccagés. Faire des gosses en baisant, ça frôle l'inceste, c'est dégoûtant. Mon crachat, il est épais, j'racque ma gorge, je sais viser. Tu me cherches, tu me trouves, punchline, sans trouille. Je crache, je te touche, d'une pierre, deux couilles.
Bah, la tienne,
elle est servie.
Hop là,
tiens.
Excellent. Tiens. Tu vois pas là, il y a des gens qui viennent d'arriver, c'est un peu chelou, c'est un gars et une meuf.
Ah oui.
Mais ils ont l'air un peu proches, non?
Écoute, oui, bon, ils sont peut-être ensemble.
Ensemble?
Oui, ensemble comme des hétéros.
Ah ouais, mais donc, moi je trouve que j'en vois de plus en plus, hein. J'en vois de plus en plus, notamment dans la rue et tout, depuis surtout qu'ils ont le droit de se marier, j'ai l'impression qu'ils se montrent, en tout cas, je sais pas, il y a... Tu vois?
Ouais, t'as peut-être raison. Après, regarde, moi j'ai un exemple, ma garagiste. Bon, elle est avec un ami.
Un ami?
Oui, un ami. Mais par ailleurs, elle fait du bon boulot et on s'entend bien.
Mmh. Bon, après je me dis chacun fait ce qu'il veut, mais ils sont pas obligés non plus de s'exposer comme ça au grand jour devant tout le monde. Tu vois, là on est en soirée tranquille et tout, ça fait un peu provoque, non?
Oui, ouais, c'est vrai que là si tu regardes notamment lui, là, il est pas mal maniéré quand même. Hein. Ses gestes, il parle fort et tout, c'est vrai qu'ils sont un peu...
Moi, j'avoue, j'ai une inquiétude là par rapport à ma petite dernière.
Mmh.
Tu vois, elle est en maternelle, enfin en grande section, tu le sais. Mais la dernière fois, l'institut leur a montré la Belle au bois dormant.
Ah oui.
Bah, moi, ça m'a.
Ouais, ça.
Je lui ai écrit et j'ai convoqué une réunion de parents parce que. Moi, enfin, ce qui m'inquiète, c'est que si jamais ça rentre trop dans la tête des enfants, à l'adolescence, quoi, ils vont se déclarer hétérosexuels comme ça. Avec la vie qu'ils ont, c'est pas facile.
Ouais,
j'ai pas
ouais.
envie qu'elle ait une vie pas facile.
Mais les choses changent. Voilà, on en voit de plus en plus. Regarde ce soir. Et puis, bon, on est ouvert quand même. Ça fait de la diversité, tu vois. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a aussi des artistes, bon, qui se sont déclarés hétéro.
Ouvertement.
Ouvertement, tu vois, je pense à Michel Sardou.
Ah oui, Michel Sardou.
Des gens, comme ça.
Attention, ils arrivent.
Il change tout le temps et j'ai plus le même qu'il y a 10 ans, par exemple. Je rigolerais plus des mêmes choses. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge tout le temps, l'humour, et que ça, faut que ça soit en connexion avec c'est quoi aussi, comment on change nos trucs de pensée, comment on réfléchit, c'est quoi les nouveaux trucs politiques, et faut que ce soit adapté. Enfin, faut que ça change tout le temps, sinon t'as.
Ouais.
C'est l'humour anti-oppressif de il y a 10 ans, il est peut-être plus drôle maintenant, quoi. Du coup, et puis même, c'est chiant d'avoir toujours les mêmes blagues, de toute façon.
Bah, moi, j'ai quand même beaucoup de blagues que j'avais déjà il y a quelques années. Mais c'est ça, c'est un problème.
Mais est-ce que c'est les meilleurs ?
Non.
Non.
Mais est-ce que vous avez l'impression, du coup, comme vous jouiez devant plutôt des publics mixtes et tout ça, que vous faisiez pas rire tout le monde ?
Oui. Oui, mais moi je trouve qu'on a joué dans des endroits où moi sincèrement avant certains concerts je me suis dit on va se faire casser la gueule. Moi il y a vraiment 2-3 fois ou même peut-être un peu plus où j'ai eu vraiment peur.
Ok.
Et c'est jamais arrivé.
Oui, bah moi, c'est juste quand tu mets un contexte d'humour aussi, les gens qui répondent agressivement ils ont l'air vraiment cons et en général ils se font tacler par. Déjà, par toi sur scène, c'est hyper facile de les tacler. Et par les gens dans la salle, c'est... Enfin... Juste, ça pose des ambiances où... Si tu rigoles pas, t'as l'air con. Alors, je parle des gens... je sais pas, des gars 6 de base. Parce qu'après, je pense qu'à un moment, on allait quand même loin dans des trucs d'humour, mais qui étaient un peu... Tendax, effectivement, sur des trucs de... nos propres traumas et tout, nanana. Qui touchaient quand même des personnes concernées... Même si c'était sur le ton d'humour, ça pouvait leur envoyer des trucs un peu durs. Et moi, c'est ce que je trouvais dur à des moments que des personnes concernées, ça les fasse pas rire dans le sens où ça leur rappelle des trucs rudes. Le but, c'est quand même globalement que tout le monde passe un bon moment, quoi.
C'est quoi ?
C'est même pour faut rire.
Ah.
Ça va.
T'en veux pas, tu peux pas. Tu supportes pas que ça se passe sans toi. La gestation pour autrui, ça change la gestation pour abruti. On produit pas gratuitement pour un crétin qui trouve ça chiant. T'as pas les outils de production.
On se lance dans la fabrication sans autorisation. On se la fait maison.
Tu veux un scoop, bouffon. Du sperme, y'en a partout. Suffit de faire la récup, c'est tout.
Je crois pas à l'égalité des droits. Je veux juste aligner des droites. Ça fait des siècles qu'on se démerde, qu'on prend ce qu'on veut et qu'on t'emmerde.
Du coup, j'ai une autre question, si jamais. C'est pour vous, c'est quoi le succès d'une bonne blague ? Et est-ce que l'art de la punchline existe ?
Ah oui, il y a un art de la punchline parce que. Ça dépend d'où quel ton tu mets et où tu mets l'intonation et tout, et ça change tout, moi, je trouve. Bah, moi, je trouve que c'est quand elles sont très imagées que ça marche.
Ouais, c'est
en train de dire. T'essayes de dire un truc, si c'est trop direct, ça marche pas, alors que si tu mets une image derrière avec... Bah, soit tu décales avec un jeu de mots, soit tu décales avec une métaphore sur un autre truc...
Et vous n'avez pas de conseil particulier à quelqu'un qui voudrait se lancer
qui voudrait faire une blague. Mais à la base, nous, on voulait faire de la musique, hein, faut que ça soit clair. Moi, des fois, j'avais un peu des problèmes avec des gens qui disaient « Ah, vous devriez faire un stand-up ». Ouais, mais bon, il y avait quand même deux, trois morceaux au milieu, c'est dommage. On avait passé du temps sur la musique aussi, enfin, ouais.
Bah, après, nous, il y avait un... dans les concerts un truc où... ce qui marchait, c'est qu'il n'y a pas de pudeur, tu vois.
Ah, nous, on n'a jamais eu de pudeur.
Voilà, et j'ai l'impression que c'est là où... bah, les gens sont un peu choqués qu'il y ait si peu de pudeur. Et du coup, là, ça... j'ai l'impression que c'était des moments où ça faisait rire les gens, mais parce que...
mais aussi parce que ça nous faisait rire nous-mêmes.
Voilà, ça nous fait rire nous-mêmes, et en fait, on n'est pas tant gênés du truc, et que du coup, ça détend les gens, du coup, ils rigolent, quoi.
Moi, par exemple, je me rappelle...
l'effet de surprise, quoi.
Ouais.
L'effet de surprise, mais oui, voilà, une ficelle.
L'effet de surprise, ouais, le... bah, vraiment, le truc de pousser ses... de... pousser ses travers en étant conscient des travers qu'on pousse.
Voilà, ah. Et en fait, des travers...
Je sais n'importe quoi, ça. Non, je pense à ça parce que... je pense qu'on avait un vieux morceau, mais c'était peut-être un des premiers où moi, je pense, ça m'a fait un déclic de me dire, ah, bah... les choses, elles sont aussi dédramatisées. Moi, je suis quelqu'un d'assez drama. Enfin, je peux être assez drama. Enfin, en tout cas, je l'étais. Je ne suis plus, je crois. Mais j'étais très drama, notamment dans mes relations amoureuses. Et il se trouve qu'on faisait quand même partie et qu'on avait l'ambition de faire partie d'une communauté qui avait déconstruit beaucoup de choses autour de la jalousie. Mais que à l'époque, j'avais une relation amoureuse avec Laura, ma comparse de scène. Et je me rappelle, on avait passé un été horrible à se faire du drame parce qu'on faisait plein de tests de non-exclusivité ratés. Et j'avais passé un mois à sombrer dans une espèce de jalousie et de drame personnel intense. Et on en avait fait une chanson. Et moi, une fois que la chanson, elle était écrite, déjà, j'étais guérie. Et c'était une chanson qui marchait extrêmement bien.
Oui, parce que...
et voilà, qui a fait rire beaucoup de monde, parce qu'on faisait quand même partie d'un milieu...
mais qui n'assumait pas, par exemple, de galérer sur ces trucs-là, sur ces trucs de non-exclusivité. Du coup, hop, quand tu mets les pieds dans le plat, que toi, tu t'assumes que des fois, t'es un peu nul. C'est à la fois, on rit de nos propres travers, mais qui sont partagés. Si c'est un truc partagé, et que tout le monde va être genre un peu soulagé. Ah non, mais moi, ah, putain, mais moi aussi...
Et pour le coup, moi, je me rappelle que ça avait soulagé plein de gens, en fait. Peut-être une des ficelles ou un des ressorts, c'était de... oui, c'est ça, tu ris de tes travers personnels que... bon, qui, en fait, sont pas que les tiens, quoi.
Parce que si tu ris d'un travers...
personnel.
Personnel que personne ne partage, à mon avis, il y a personne qui va trouver drôle. Qu'est-ce que ça pourrait être,
voilà. Donc, on garde l'effet de surprise et rire de travers personnels qui sont partagés. Voilà les deux ficelles.
Non, c'est gênant. Voilà.
Et l'absurde, moi j'adore les trucs hyper absurdes.
Je ne suis pas jalouse, j'ai tellement tout déconstruit. Je porte des slips kangourou et cela sans kiki. Alors tout va très bien. Oh oui, je vais très bien. We are not girlfriend, we are not fuck friend. We don't do in romantic, sapphic and dramatic relationship. We are so post-structuralist for this fucking shit. Fucking shit. Je me taillade le ventre avec mes ciseaux à bourron. Ils sont roses et les griffures sont profondes. Les gouttes perlent à la surface de la peau, je trouve ça joli. We are not lovers, we are not girlfriends, fuck friends or whatever. We don't know jealousy, we don't do in dramatic, sapphic and romantic relationship. We are so post-structuralist for this fucking shit. Fucking...
vous avez vu le spectacle d'Anna Gatsby?
Ouais, oui, on l'a vu.
Et du coup, à un moment, dans son spectacle, elle s'interroge sur l'utilité de l'humour. Mm. Et je vais prendre une phrase qu'elle a dit pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, c'est un moment où elle dit qu'elle refuse de faire passer la haine de soi la plus profonde pour de l'autodérision. Elle dit « Je suis experte dans l'art de la tension, mais je n'en peux plus de cette tension. C'était moi la tension, mais je n'en peux plus. Elle me rend malade. Je vous la laisse. Elle est à vous. Je refuse dorénavant de vous aider. Il est temps que vous appreniez ce que ça fait, parce que les anormaux la trimballent en permanence. »
Moi, après, dans le reste de ma vie, je pratique l'autodérision et je crois que ça m'a parlé. Moi, dans ma famille, par exemple, les premières blagues que j'ai faites en étant en assumant d'être Gwyn chelou, je sais pas quoi, parce que c'était sur l'autodérision, et les premières blagues que j'ai faites, ça jouait sur des trucs d'utiliser cette tension et puis de la désamorcer. Sur le coup, elle est désamorcée, et puis je veux dire, les... Mais c'est vrai que t'as un rapport au dominant qui est soulagé, que toi-même tu penses qu'il... la même chose qu'eux ils pensent de toi. Et du coup, ça crée quand même un truc très rabaissant. Moi, ça m'a vraiment parlé, ce truc-là. Mais je trouve que c'est comme une introduction à pouvoir se permettre autre chose dans un autre milieu. Parce que le dominant, il flippe quand t'es là. Dans ma famille, je pense que ça mettait une certaine tension que je sois là à des moments. Ça mettait une tension parce qu'on n'a pas le droit de faire les mêmes blagues sur les homos, on n'a pas le droit de faire les mêmes blagues sur les meufs, on n'a pas le droit de... Et que du coup, avoir fait un peu des blagues d'autodérision ou quoi, ça, j'ai l'impression que ça a soulagé tout le monde. Mais en même temps, ça voulait dire assumer quand même d'être, tu vois, un certain rapport de domination, c'est sûr. Je me rappelle d'un été où je pense que c'était assez clair que j'étais Gwyn, en tout cas méga chelou, enfin... Même sur des trucs de genre, enfin... Enfin, moi, j'ai une cousine qui est un peu plus jeune que moi. Et je sais plus, j'étais chez mes grands-parents, et il y avait mon oncle et ma tante. Arrête de fumer, ça va faire un son horrible. Et du coup, j'étais chez mes grands-parents, il y avait mon oncle et ma tante. Et puis, je sais pas, il y a ma grand-mère qui parle de ma cousine qui est un peu plus jeune que moi, mais qui est une fille hétérosexuelle, tout ce qui est plus normal. Et je sais plus, ma grand-mère, elle dit un espèce de truc de « Ah oui, et puis... » Et puis machin, elle est belle, intelligente et féminine, je sais plus ce qu'elle dit. Et je sais plus, Dieu lui a tout donné, un truc comme ça. Et j'étais avec mon oncle et ma tante à côté, puis moi je me sentais quand même gênée, parce que je pense que ma grand-mère n'a jamais dû dire ça pour moi. Et du coup, je fais une blague et je dis, bah, moi Dieu, il m'a dit, tu seras petite, moche et poilue. Et là, ça a détendu un truc de malade tout le monde. Sauf que ça jouait quand même sur un truc très très humiliant et qu'au final tout le monde pensait vraiment, je pense. Mais ça a fait aussi ce truc après coup que je me suis rendu compte que, par exemple, mon oncle qui est quand même un vieux monsieur blanc, cis, hétéro, tout ce qu'il y a de plus normal, il a commencé à faire des blagues sur lui-même. Et c'est là où je me suis dit, bah oui, en fait, effectivement, j'ai pris un truc en charge de l'attention qui existait parce que personne n'osait rien dire, que en même temps, c'était assumer un truc que tout le monde pensait, parce que c'est vrai que tout le monde le pensait. Et en même temps, moi je me suis dit, bon, à partir du moment où j'accepte de revivre des moments collectifs avec eux, va falloir quand même que cette tension, elle se décharge un tout petit peu, parce que sinon c'est pas possible. Je veux dire, j'assume la tension avec les gens avec qui je sais que j'ai encore un peu de lien affectif à entretenir pour certaines raisons. Mais je veux dire, je gérerai pas une tension qui soit plus lourde que juste celle qui me concerne, quoi.
Ouais. Moi, j'ai fini mon interview. J'ai fini mes questions.
On s'est pas tant marré que ça, finalement, tu vois.
Vous avez quoi ?
On n'a pas tant rigolé que ça, finalement.
Dernière génération d'enfants nés.
Attends. Je me mets un doigt dans l'œil pour chialer.
Vous les hétéros, c'est vrai. Au printemps, vous vous accouplez. 9 mois après, vous mettez bas dans la forêt. Aucun contrôle médical, aucune organisation sociale. L'harmonie est totale. Pas de problème de classe. Naturellement, tout le monde est à sa place.
Sérieux ? T'es nostalgique d'un lâchage de purée de ton père ? D'une éjac au fond de ta mère ? T'es fière de cette famille nucléaire ?
Nous, on se marre, on fait le poirier. On boit le thé entre potes après s'être branlé dans un gobelet. La boucle est bouclée, c'est insensé. On veut pas connaître ta position sur l'IVG.
Je vais te faire bouffer mon patrimoine génétique. Comme tous les mois, il a fini au fond de ma serviette hygiénique. Vouloir que les couilles soient stériles, ça c'est de l'eugénisme. Dire que t'es fini à la pisse, ça c'est un euphémisme.
C'est un euphémisme.
On attend avec impatience ton développement sur l'adoption. Les rapports nord-sud, tes solutions, tes injonctions. Vu ta finesse d'analyse sur les rapports de domination, ça nous fera une source d'inspiration pour une future chanson.
Rien pour ça, à ton père on dit merci. Pas avoir fait de vasectomie. Allez, on a assez joué à c'est le premier qui dit qui est. Collabo, libéral, libertaire versus hétérocrate autoritaire. Laisse-moi gaulerie, on sait dans quelle bibliographie nazi ton bouquin a fini. On est contre l'humanité, on fera pas l'effort en premier. On arrêtera de s'inséminer quand vous arrêterez de coïter.
Ironie. Figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre. Moi, j'adore les graffitis à l'ancienne. Les phrases écrites plutôt que les images. Ce que j'aime le plus, c'est quand ils mêlent politique et humour. Il y en a quelques-uns qui me font hurler de rire. Il y a un humour tout particulier dans les graffitis. Parce que c'est des phrases courtes, il faut condenser une idée en peu de mots, et quand c'est bien senti, ça marche trop bien. Ces graffitis sont politiques parce qu'ils parlent explicitement d'un sujet politique ou alors parce que la phrase prend un sens politique par l'association d'idées qu'elle déclenche. Leur humour est souvent cinglant et ironique. Ils critiquent le monde en fabriquant des images décalées, drôles mais avec une pointe de lassitude, un ton désabusé.
Vaincre le yoga par le stress.
Voilà, par exemple. Il suffit juste de changer l'ordre de deux mots d'une phrase toute bête et ça inverse la logique.
Seigneur, délivrez-vous du mal.
Là aussi. T'as une référence que tout le monde connaît, tu changes un mot par un autre qui sonne presque pareil, c'est un jeu de mots quoi. Mais l'ironie, à mon avis, tient dans le fait que c'est Deliveroo le mal dont il faut se délivrer, et c'est ça qui le rend drôle. L'ironie, c'est dire autre chose que ce qu'on veut transmettre en attendant des autres qu'ils comprennent ce qu'on voulait vraiment dire et notre attitude ou notre posture face à ce qu'on dit. Le graffiti ironique joue sur les contradictions, les doubles sens. Les réalités dont il parle sont à la fois évoquées et révoquées par l'ironie.
La police n'est pas violente et moi j'écris pas sur les murs.
Ouais, voilà, par exemple. Les graffitis ont un côté ludique et des fois ils jouent à choquer, à défier les normes ou les conventions sociales. En ça, ils ont quelque chose de cathartique. Ils défoulent parce qu'ils ridiculisent les idées toutes faites, les discours dominants bien intégrés.
Les flics ne sont pas nos fils.
Signé.
Les putes.
C'est ça. Le message est décalé en deux temps trois mouvements et ça défonce à la fois les flics et les expressions de langage sexiste et putophobe. Ils disent des choses sur un monde et des réalités qui n'ont rien de drôle. Mais parce qu'ils sont fins, ou un peu trash, ou parce qu'ils jouent avec l'autodérision, ils forcent en quelque sorte le sourire, même si on n'est pas complètement d'accord. Tu t'arrêtes sur un graffiti, tu souris ou tu rigoles au moment où tu comprends le sens et ça déclenche un moment de réflexion. Tu retournes la phrase dans ta tête et tu trouves que ça dépeint très justement les choses. Enfin, quand ça marche, quand ça prend.
Une pensée aux familles des vitrines.
Un brin de sarcasme dans le fait de mettre les vitrines au rang de victimes, qui fabrique tout un discours sur où est la violence, de quel côté. Ça ridiculise ceux qui chialent sur un bien matériel ébréché. Bon, on le comprend mieux s'il est lu dans la rue un lendemain de manif. Et il y a une forme de satisfaction à comprendre la blague. Si tu comprends, c'est que t'as le dessous des cartes. Alors, ça crée de la connivence. Enfin, quand ça rentre dans tes valeurs.
Conspi! Ta mère est reptilienne!
J'ai pas compris, moi.
Conspi, ouais, moi, contre, ta mère est reptilienne.
Mais moi, je comprends pas cette.
Les conspirationnistes.
Oui, là, les conspirationnistes, ça va.
Ça serait les reptiliens qui diraient.
Ouais, mais c'est une blague sur les mères, c'est pas bien
bah,
ça.
Bah oui, moi aussi, je trouve, c'est pas.
Ouh. Sinon, il y a aussi ton. Ouh. Il y a aussi ton père et franc-maçon.
qui est franc-maçon?
Frère. Moi, je préfère celle-là.
Alors, vas-y.
Conspi, ton père est franc-maçon.
Ouais. En tout cas. Je trouve qu'écrire sur le monde et son monde en rigolant, c'est déjà mettre des mots sur lui, en décoder les mécanismes. Ces graffitis ne cherchent pas à convaincre, mais à faire sourire les camarades, les potes, à fabriquer de la communauté, du collectif, et à se donner de la force.
Casse, casse, bang, bang.
Bisous, bisous.
Quiero pasarlo bien, escojono yo de río.
vamos tú también. Me escojono toda sola, me río para no llorar. Me parto el culo, me río para no llorar. Me muero de la risa, me río para no llorar. Me parto la caja, me río para no llorar. Mira, una vez se acercó a mí un tal testigo de Jehová. Esta persona pues quería conmigo conversar. No le dejé hablar, lo pasó muy mal. Empecé a disparar mis líricas patínicas, le parecieron magníficas. Ahora escucha la música del diablo. Todos sus colegas me andan buscando. Dicen que soy el anticristo, que me han encontrado. Vaya pandilla de tarados, si intentan algo conmigo están acabados. Tengo el mundo en mis manos y esa virtud alguien me la ha dado. Está claro, Genaro, ja, unos nacen con suerte, otros desgraciados. Para creer en Dios no hace falta ser de alguna secta. Yo soy como soy, Dios me acepta o no me acepta. Está claro, me parto el culo de risa. Está claro, ja, me río para no llorar. Me escojono toda sola, me río para no llorar. Me parto el culo, me río para no llorar. Me muero de la risa, me río para no llorar. Me parto la caja, me río para no llorar. Te tragarás mi furia. Si buscas la lujuria, yo la tengo. Vamos, adelante, síganme los malos, los canallas, los villanos, los que por fin hemos triunfado. Escojono por todo lo alto. Lo mío con vosotros es un pacto. Ya sabéis, cogeremos toda la pasta de los bancos. Todo lo que nos roban, vamos a desparramarlo. Soy una Magnum 44 a punto de disparar. Apártate del medio, que no te quiero dar. Estoy apuntando a ese cabrón. No me gusta su mostacho. En su puesto debería estar mi culo, macho. Tú ya sabes, chacho, que todo iría mejor. Yo tengo la solución. Culturizar a toda España con mi original hip hop. Y se acabó. Me escojono toda sola, me río para no llorar. Me parto el culo, me río para no llorar. Me muero de la risa.
Alors voilà, peut-être que si vous n'avez pas ri, c'est parce que vous étiez seul et que le rire se fait en communauté. Du coup, peut-être pouvez-vous essayer de réécouter cette émission à plusieurs, parce que en vrai, elle était drôle.
Voilà, Big Up, merci de votre écoute. Et puis, il y a quelques rires qui nous ont manqué dans les studios, alors on leur fait un clin d'œil.
Les clins d'œil, ça passe pas trop à la radio, par contre.
Ah, merde.
Non, si, les clins d'œil, oui, c'est... Ah non, mais parce qu'il a dit clin d'œil et il a fait un bisou.
Ouais, d'accord. Ok, c'est de l'ironie, alors.
Exactement.
On va bien se
marrer. Donc voilà, à la technique, ils ont les rires, donc on est mal barré. Non, big up à toute l'équipe de Brasero. On n'est que trois ce soir, mais on a été plusieurs à faire cette émission. Et pour tout vous dire, il y en aura une deuxième, parce qu'en en fait, on a eu plein de sons sur ce thème, sur le thème de l'humour et du rire. Ça n'arrête pas. Donc bientôt, vous pourrez écouter Brasero Rire 2 si vous avez beaucoup aimé Brasero Rire 1